Oscar Miloche, extrait de Contes et fabliaux de la vieille Lituanie, le chat, le coq et le renard. Il était une fois un chat et un coq. Unis par le tendre lien d'une amitié déjà ancienne et instruits par l'expérience à ne faire que peu de cas de la vie selon le siècle, ils prirent le parti de fuir le monde et de renoncer aux vains avantages que leur procuraient leurs talents et leur naissance. Ayant fait la découverte d'un coin de forêt orné de tous les agréments que peut offrir une retraite rustique, ils y bâtirent une hutte qui reçut quelques rares objets indispensables à leur nouvel état. Le coq avait embrassé dans sa jeunesse la carrière des armes. Le chat, qui jouait fort agréablement du violon et composait des sérénades, était en outre habile chasseur et accommodait lui-même en maître queue consommé les viandes dont le garde-manger était abondamment fourni par ses soins. Quelque étrange que pût apparaître cette vie à des yeux fascinés par le faux éclat du monde, nos amis y trouvèrent du premier jour 1000 sujets de s'applaudir de leur résolution. Le chat, après avoir dormi la grasse matinée, s'en allait battre les fourrés, et, sans peut-être y mettre aucune intention blessante à l'endroit des mérites dont se piquait le coq, vraie foudre de guerre, il ne quittait jamais l'ermitage sans lui recommander la plus grande circonspection. Et surtout, monsieur le capitaine, lui disait-il en manière d'adieu, n'ouvrez jamais lui sa personne, quelque raison que l'on avance pour se faire admettre. Le coq ne laissait rien paraître du dépit qu'il en ressentait, mais dans son fort intérieur, il trouvait singulièrement outré la sollicitude dont il était l'objet. Tant il est vrai que nos plus chères affections ont elles-mêmes à faire tête aux assauts de notre vanité. Les deux amis goûtaient depuis quelques mois ces innocents plaisirs quand un jour, un certain maître renard, homme retors, à qui sa charge de procureur du roi servait surtout à couvrir plus d'un méfait, vint gratter à leur porte, attiré sans doute par les richesses du coq, qui, fidèle sur ce point aux antiques mais vaines traditions de sa race, étalait encore avec insolence sur sa personne tout l'or et toutes les pierres précieuses qui lui venaient de ses ancêtres. Notre capitaine était seul, occupé de construire, avec des graines répandues sur le carreau, quelques figures de bastions ou de fortins. Ayant fait décliner aux visiteurs ses titres et qualités, il tira le loquet en marmottant tout guilleret dans son jabot. Voyons un peu ce que nous veut ce Robin. La porte, cependant, ne fut pas plutôt ouverte que le procureur, sautant à la gorge du capitaine et lui assenant fort ce coup d'un bâton noueux qu'il cachait sous sa robe de magistrat, l'entraînait tout endolori et ébahi dans une direction qui ne pouvait être que celle de son repaire. « Monsieur de Ramina Grobis, à moi !» criait l'infortuné. La nymphe Écho, dont la grotte était fort voisine du théâtre de ces événements, entendit l'appel et emporta les dernières notes jusque à l'oreille du chat. Celui-ci accourut. Hélas, déjà, l'antre de Thémis se refermait sur le ravisseur et la proie. Embrassant d'un coup d'œil rapide la situation, et imposant silence au tumulte qu'elle suscitait dans son esprit, M. de Ramina Grobis se campa devant l'entrée du coupe-gorge et, tirant de l'étui l'instrument qui charmait ses loisirs et ne le quittait jamais, il attaqua avec fureur son grand air. Le premier est Lucos Iucas, le deuxième est Tamos Iucas. L'une se nommait Massiouloquet et l'autre Didolioquet. Attiré par ses accents mélodieux, le fils aîné de Maître Renard entr'ouvre le ventail et sort la tête. D'un coup de son archet, M. de Raminagrobis la fait rouler toute sanglante à ses pieds. Le premier est Leucosiukas. Le deuxième est Amosiukas. L'une se nommait Masiuluke et l'autre Didouliuke. Juste ciel, voici le tour du puiné. Son lamentable chef va rejoindre dans l'herbe empourprée celui de son déplorable frère. Le funèbre archet attaque d'heureux chef les cordes. Les jeunes de la renardière quittent l'un après l'autre leur abri. L'un après l'autre, l'inflexible monsieur de Raminagrobis les sacrifie à sa chère euterpe. Enfin, Maître Renard apparaît lui-même, reçoit le coup fatal et restitue aux divinités souterraines une vie souillée de blasphèmes et de crimes. Le chat et le coq s'en retournent à leur asile, non sans emporter sur leurs épaules un rôti que ces cruels événements n'empêchèrent point de parvenir à parfaite cuisson.